Chapitre 18. Le jeudi, le pater dut retourner chez son frère chercher quelques papiers officiels et Duane l'accompagna. Son père était nerveux, irritable, de toute évidence tout près de se laisser aller à une biture de grande envergure. Il n'avait tenu le coup si longtemps que par amour pour son frère et pour ne pas se couvrir de honte devant sa famille. Une partie de son anxiété venait aussi de son indécision vis-à-vis des cendres de son frère. Qu'en faire ? Il avait été horrifié lorsqu'on lui avait remis l'urne lourdement décorée et il l'avait ramené en voiture avec eux comme un passager indésirable et muet. Après dîner le mercredi soir, juste avant que Dale ne lui téléphone, Duane était discrètement allé en examiner le contenu. Son père était entré juste à ce moment-là.
Ces trucs blancs qui ressemblent à des morceaux de craie, ce sont des os, avait-il remarqué en allumant sa pipe.
Duane avait remis le couvercle.
On pourrait imaginer que si on brûlait un corps dans un four crématoire dont la température serait proche de celle du soleil, il ne resterait rien. Eh bien, on se trompe. C'est coriace, les os, avait ajouté le pater.
Les jambes soudain molles, Duane s'était laissé tomber dans un fauteuil placé devant la cheminée, mais qu'ils utilisaient rarement.
Les souvenirs aussi, c'est coriace,
lança Duane, étonné de répondre par un tel cliché.
Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je pourrais répandre ces cendres. C'est une coutume plutôt barbare quand on y réfléchit.
Duane contemplait l'urne.
Je crois qu'on est censé les éparpiller dans un endroit qui comptait dans la vie du défunt,
dit-il presque à voix basse.
Un endroit où il a été heureux.
Tu sais, Carte a laissé un testament, Duane. Mais il n'y a pas un mot sur l'endroit où il souhaitait qu'on disperse ses cendres.
Il têta sa pipe d'un air méditatif.
L'idéal serait la grande salle de lecture de la bibliothèque de Bradley,
dit Duane. Le pater s'esclaffa.
Ça plairait beaucoup à Art.
Il retira sa pipe de sa bouche et contempla longuement le vide devant lui.
Tu n'aurais pas une autre idée ?
Il aimait bien aller à la pêche au bord de la Spoon.
Sa gorge et son cœur se serrèrent soudain. Alors il alla se chercher un verre d'eau à la cuisine. Quand il revint, la pipe du pater s'était éteinte et il en vidait les cendres dans la cheminée.
Les cendres. Tu as raison. C'était probablement l'endroit qu'il préférait. J'allais pêcher là-bas avec lui avant même qu'il ne quitte Chicago pour s'installer ici. Et il t'y emmenait souvent, n'est-ce pas ?
Duane acquiesça en buvant une gorgée d'eau pour se dispenser de répondre. C'est à ce moment-là que Dale avait téléphoné. Quand Duane était revenu, le pater bricolait dans son atelier la cinquième version de sa machine à apprendre. Duane et son père se rendirent à la rivière juste après le lever du soleil, à l'heure où les poissons remontent à la surface en provoquant de grands ronds dans l'eau. Duane regretta de ne pas avoir apporté sa canne à pêche. Il n'y eut pas de cérémonie. Le pater tint un instant l'urne contre lui, comme s'il hésitait soudain à se séparer de ce qu'elle contenait. Puis, au moment où le soleil éclairait les cyprès et les aulnes, il dispersa les cendres au-dessus de l'eau, tapotant le fond du récipient jusqu'à ce qu'il soit bien vide. Il restait effectivement des morceaux d'os, qui provoquèrent de petites éclaboussures en touchant l'eau, attirant des poissons-chats et au moins une perche que Duane aperçut au bord de la rivière. Tout d'abord, les cendres restèrent groupées à la surface de l'eau, comme une mince pellicule grise qui descendit le courant et tourbillonna autour des souches. Puis, entraînée par le courant plus fort au centre, elle se désagrégea et se mélangea aux eaux de la rivière. Duane s'était essuyé les mains et avait suivi le sentier abrupt jusqu'à la route. Tout en marchant derrière son père, il remarqua combien celui-ci avait maigri ces dernières semaines et combien sa nuque était tannée et ridée. Avec ses joues non rasées couvertes de poils gris, son père avait l'air d'un vieillard. La maison d'Art avait perdu son odeur de demeure habitée et sentait maintenant le moisi, l'humidité. Tandis que le pater fouillait tiroirs et classeurs, Duane feuilleta discrètement les petits carnets de son oncle et fit l'inventaire de la corbeille à papier. Comme son neveu, oncle Art adorait prendre des notes et rédiger des fiches. Duane décrocha le gros lot, une feuille de papier chiffonnée dans la corbeille sous un emballage de cigares et d'autres débris. Elle semblait dater du samedi. Veille de l'accident. 1. Cette satanée cloche des Borgia ou stèle de la Révélation a survécu en fin de compte. 2. 60 ans, 6 mois, 6 jours. En supposant que l'absurde et l'impossible soient devenus réalité, et ce qui, d'après Duane, est en train d'arriver en ce moment signifie le réveil du maléfice après tous ces siècles, le sacrifice humain aurait eu lieu au début du siècle, aux alentours du 1-1-1900. Vérifiez à Elmhaven. Recherchez des gens âgés susceptibles de se souvenir. Ne pas en parler à Duane avant d'avoir quelque chose de positif. 3. Crowley dit que la cloche, ou la stèle, utilisait des gens et pouvait faire apparaître des auxiliaires venus du monde des forces obscures. Relire le passage concernant ces créatures semi-humaines qui erraient dans les rues de Rome. 4. Entrer en contact avec Ashley Montagu, lui tirer les vers du nez. Duane reprit sa respiration et plia le papier. Puis il alla sous la véranda, se laissa tomber sur une chaise et posa ses pieds sur la balustrade. Quand il sortit de la maison, son père se figea, la main sur la porte de la moustiquaire, et Duane se rendit compte combien dans cette attitude, à cet endroit, il avait dû lui rappeler son frère. Ils fermèrent soigneusement la maison. Des semaines, des mois peut-être, passeraient avant qu'il ne revienne la vider. Duane ne jeta pas un seul regard en arrière en descendant l'allée. Duane décida de s'adresser à Madame Moon. La mère de la bibliothécaire avait plus de 80 ans et habitait depuis son mariage la maison à l'angle de Second Street et Depot Street. Il ne la connaissait pas très bien, il l'avait seulement rencontrée quelques fois lorsqu'elle se promenait le soir avec sa fille. Par contre, il connaissait Mademoiselle Moon de longue date. Il n'avait que 4 ans lorsque son oncle Hart l'avait emmenée à la bibliothèque pour l'y abonner. Mademoiselle Moon avait froncé les sourcils, secoué la tête et regardé le petit garçon joufflu.
« Nous avons très peu de livres d'images, Monsieur McBride. Nous préférons que les parents des enfants qui ne savent pas encore très bien lire les empruntent sur leur propre abonnement. »
Oncle Hart n'avait pas répondu. Il avait sorti un livre de l'étagère la plus proche et l'avait tendu à son neveu.
« Vas-y. »
Et Duane avait commencé à lire à haute voix.
« Chapitre 1. Ma naissance. Vais-je être le personnage principal de ma propre vie ou bien ce rôle sera-t-il réservé à un autre? Ces pages en décideront. Pour commencer ce récit par le commencement, je tiens à préciser que je naquis, m'a-t-on dit, et je n'ai aucune raison de ne pas le croire, un samedi à minuit. Oh, très bien. »
L'oncle Hart avait remis le livre à sa place. Mademoiselle Moon avait, de mauvaise grâce, rempli une carte de prêt au nom de Duane McBride. Et pendant des années, le gamin avait considéré ce petit carton comme un de ses plus chers trésors, bien que Mademoiselle Moon l'ait toujours traité avec une froideur rancunière. Quand un an plus tard, parallèlement à la lecture des œuvres complètes de R.L. Stevenson et de C.S. Forrester, Duane s'était livré à une orgie de romans policiers racontant les aventures de la célèbre détective Nancy Drews, Mademoiselle Moon lui avait fait remarquer qu'il s'agissait là de livres de filles et lui avait demandé, bien qu'elle connût la réponse, s'il avait une sœur. Avec un large sourire, Duane avait remis ses lunettes, répondu non et emprunté ce jour-là uniquement des Nancy Drews. Après les avoir tous dévorés, il avait découvert les Edgar Rice Burroughs. Et il avait passé un été de rêve à traverser les steppes de Barsoom, les jungles de Vénus et surtout à s'élancer depuis la terrasse de la jungle de Lord Greystoke. Il n'imaginait pas très bien cette terrasse, mais il avait essayé de s'en arranger une dans les chênes près de la rivière. Vite, les oreilles dressées et l'œil interrogateur, le regardait se balancer de branche en branche et y déjeuner. Aux vacances suivantes, Duane lisait Jane Austen, mais cette fois, Mademoiselle Moon n'avait fait aucune réflexion sur les livres de filles. Dès qu'il eut fini son travail à la ferme, Duane partit pour le bourg. Comme le pater louait la majorité de ses terres à M. Johnson et que chaque année il cultivait une plus petite superficie, il n'y avait pas trop à faire. Duane devait s'occuper du bétail et vérifier que les abreuvoirs étaient bien remplis, mais maintenant que les bêtes étaient au champ, elle ne lui donnait aucun souci. L'ingrate corvée d'épandage du fumier avait été terminée en mai. Il n'avait plus à y penser. Il passa quelque temps à graisser le cultivateur à 6 rangs, tandis qu'à côté de la fosse, l'énorme moissonneuse-batteuse attendait le moment d'entrer en action. Le pater l'avait amené là pour en bricoler une fois de plus le cueilleur à maïs. Il était toujours en train d'essayer d'améliorer, de transformer, d'adapter les machines, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus qu'une très faible ressemblance avec leur aspect d'origine. La plupart des fermiers du coin tiraient une ramasseuse à maïs derrière leur tracteur, mais le pater avait acheté une vieille moissonneuse-batteuse et y avait monté 8 rangs de becs cueilleurs. Dans les bonnes années, la récolte était plus rapide. En revanche, Martin McBride passait des heures et des heures à entretenir l'engin et à en améliorer les éléments assurant la cueillette, l'épluchage et l'égrenage. Duane se disait parfois que son père restait fermier pour le seul plaisir de bricoler ses machines agricoles. Ce matin-là, il avait bien pensé à lui demander de le conduire au bourg, mais comme son père attendait impatiemment le vendredi soir pour se payer une sérieuse beuverie chez Carl ou à l'Arbre Noir, ce n'était pas le moment de le faire aller en ville. Il partit donc à pied. Quand il frappa à la porte de Madame Moon, la vieille dame s'approcha en boitillant, suivie d'un cortège de chats.
« Je vous connais, jeune homme ?»
demanda-t-elle d'une voix chevrotante et au perché.
« Oui, madame, je m'appelle Duane McBride. J'ai accompagné une ou deux fois Dale Stewart et Mike O'Rourke quand ils sont venus vous chercher pour votre promenade. »«
Qu'est-ce que tu dis ?»
Duane répéta plus fort.
« Ce n'est pas l'heure de ma promenade, je n'ai pas encore dîné !»
rétorqua Madame Moon d'un ton un peu agressif. L'escorte de chats rôdait autour des cannes de la vieille dame, se frottant contre ses jambes enflées et enveloppées de bandages couleur chair. Duane pensa au mystérieux soldat avec ses bandes moltières.
« Non, madame, je voulais juste vous poser quelques questions. »«
Des questions ?»
Elle recula dans l'obscurité du couloir. La vieille maison était petite et l'odeur laissait supposer qu'elle avait abrité des générations de chats qui avaient à tout jamais renoncé au monde extérieur.
« Oui, madame, juste une ou deux. »
« Et c'est à quel propos ?»
Elle clignait des yeux dans sa direction et Duane devina qu'elle ne distinguait sans doute qu'une vague forme sur le seuil de la porte. Il fit un pas en arrière, le mouvement du démarcheur malin destiné à rassurer.
Juste, sur autrefois, je dois rédiger un devoir pour l'école, sur Elmhaven au début du siècle. J'ai pensé que vous pourriez peut-être me donner, enfin, me décrire l'atmosphère du bourg à cette époque.
Te donner quoi ?
Des renseignements, s'il vous plaît.
La vieille dame hésita, se retourna en s'appuyant sur ses cannes, puis entra dans une pièce suivie de son cortège de chats en laissant Duane sur le seuil. Il ne savait pas quoi faire.
« Allons !» dit la voix dans la pénombre. « Ne reste pas planté là ! Entre ! Je vais nous préparer du thé !»
Duane s'assit, but du thé, mangea des gâteaux, posa des questions et écouta les histoires de Madame Moon sur son enfance, son père et Elmhaven au bon vieux temps. Tout en parlant, elle grignotait des biscuits confectionnés par sa fille et régulièrement, des petits morceaux tombaient sur ses genoux. L'un après l'autre, les chats venaient lécher les miettes, tandis qu'elle les caressait distraitement.
« Et la cloche ?»
demanda-t-il enfin, une fois qu'il eut apprécié le degré de fiabilité de la mémoire de la vieille dame.
« Quelle cloche ?»
Madame Moon s'arrêta de mâcher. Un chat sur ses genoux tendit le cou, comme s'il allait lui arracher le petit bout de gâteau qu'elle tenait encore entre ses doigts.
« Vous me parliez des curiosités du bourg, » souffla Duane. « Et la cloche dans le clocher de l'école ? Vous ne vous souvenez pas qu'on en ait parlé ?»
Madame Moon eut l'air étonnée.
« Une cloche ? Quand y a-t-il eu une cloche là-haut ?»
Duane soupira. Il nageait en plein brouillard.
« En 1896 !» articula-t-il lentement. « C'est Monsieur Ashley qui l'avait rapporté d'Europe !»
Madame Moon eut un petit rire nerveux. Son dentier glissa et elle le repoussa du bout de la langue.
« Gros bêta ! Je suis né en 1896 ! Comment pourrais-je me souvenir de ce qui s'est passé l'année de ma naissance ?»«
Alors, vous ne vous souvenez pas de la cloche ?»
insista-t-il une dernière fois, prêt à ranger carnet et crayon.
« Mais si, bien sûr !»
Elle prit un autre biscuit.
« C'était une si belle cloche ! Le père de Monsieur Ashley l'avait ramenée d'Europe au cours d'un de ses voyages. Quand j'allais à l'école à Old Central, la cloche sonnait tous les jours à 8h15 et à 15h. »
Duane ne pouvait en croire ses oreilles. C'était la première confirmation verbale de l'existence de la cloche. Les mains tremblantes, il ouvrit son carnet et se mit à écrire.
Vous vous rappelez ce que cette cloche avait d'exceptionnel ?
Oh, mon enfant ! À cette époque, tout ce qui concernait notre école et sa cloche était exceptionnel. Tous les vendredis, l'un d'entre nous, un des plus jeunes élèves, était choisi pour sonner la cloche le matin. Je l'ai fait une fois, je m'en souviens encore. Ah oui, c'était une cloche magnifique.
Vous vous souvenez de ce qui lui est arrivé ?
Oui, enfin, je veux dire, je ne sais pas trop.
Elle eut un regard étrange et posa le biscuit entamé sur ses genoux. Deux chats s'en emparèrent voracement, tandis qu'elle portait à sa bouche des doigts tremblants.
« Monsieur Moon, mon Orville, je veux dire, pas mon père, Monsieur Moon n'était pour rien dans ce qui est arrivé. En aucune façon !»
Elle tapota du doigt le carnet de Duane.
« Allez, écris ça. Ni Orville ni père n'étaient présents quand s'est passée cette terrible affaire. »
« Oui, madame. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ?»
Madame Moon agitait les deux mains et les deux chats sautèrent de sur ses genoux.
« Eh bien, cette terrible affaire, tu sais bien, cet horrible événement dont personne ne veut parler. Pourquoi tiens-tu à écrire cela dans ton carnet ? Tu as pourtant l'air d'un bien gentil garçon. »
« Oui, madame. »
Duane osait à peine respirer.
« Mais l'on m'a dit de noter absolument tout. Et je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider un peu. De quelle terrible affaire parlez-vous ? Cela a un rapport avec la cloche ? »
Madame Moon parut oublier sa présence. Les yeux fixés sur l'ombre, elle répondit d'une voix à peine plus audible qu'un murmure.
« Non, bien sûr que non, pas avec la cloche. Quoique, c'est là qu'ils l'ont pendue. « N'est-ce pas ?
Qu'ils ont pendu qui ?»
chuchota Duane.
« Ce monstre, bien sûr. Celui qui a tué. »
Elle eut un petit hoquet et il vit des larmes rouler sur ses joues.
« Celui qui a tué et mangé la petite fille »
acheva-t-elle d'une voix un peu plus ferme. Duane s'arrêta d'écrire et la regarda fixement.
« Allez, écris ça !»
ordonna-t-elle en tendant l'index vers lui. C'était bien Duane qu'elle regardait maintenant, les yeux fiévreux.
« Il est temps que quelqu'un l'écrive !»
continua-t-elle.
« Mais je veux que tu précises bien que ni Orville ni père n'étaient présents. Ils n'étaient même pas dans le comté ce jour-là. Allez, écris ça tout de suite !»
Et Duane prit en note tout ce qu'elle raconta, d'une voix qui lui faisait penser au froissement des pages d'un parchemin oublié.